Bonjour à tous et bienvenue sur Calade. Au sommaire de notre journal local et régional. Pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, le chef de l'État a annoncé la fermeture des écoles dès vendredi soir, donc durant 3 semaines en avril, et l'élargissement du confinement hybride à tout le territoire. Nous avons recueilli les impressions du directeur de l'école primaire Monet-Roland à Villefranche, Régis Joubert avec nous dans cette édition. Retraités, associations et syndicats, un appel à une journée nationale de mobilisation ce 31 mars. Sur le plan social, l'augmentation des pensions en particulier fait partie des revendications principales. La CGT Retraité Villefranche-Beaujolais invitait au rassemblement en matinée pour un défilé rue nationale jusqu'à la place des Arts. Calade, le journal. Fermeture des écoles, télétravail renforcé, mesures pour les familles modestes. Sont les annonces faites par Emmanuel Macron dans la soirée du 31 mars. Les établissements scolaires donc fermeront leurs portes pendant 4 semaines, sauf pour les enfants des soignants et de quelques autres professions, de même que les enfants en situation de handicap. Du 5 au 12 avril, pour tous les enfants scolarisés, la semaine sera de 4 jours. Le 5 avril étant le lundi de Pâques, jour férié. Et les cours se feront à la maison, selon la déclaration du président. Ce sera pour les écoles maternelles et primaires la seule semaine d'enseignement à distance, contrairement aux collégiens et lycéens. Car la rentrée aura lieu pour tous le 26 avril, physiquement, pour les maternelles et les primaires, à distance pour les collèges et les lycées. Le 3 mai, les collégiens et lycéens pourront retrouver physiquement leurs établissements. Du 12 au 26 avril, les vacances ont été unifiées pour toutes les zones, fixées à 2 semaines et non à 3, comme certains le réclamaient. La semaine du 26 avril au 3 mai, la rentrée se fera en présentiel dans les écoles et en distanciel pour une semaine supplémentaire dans les collèges et lycées. Collégiens et lycéens reprendront le chemin de l'école dès le 3 mai. Quant aux étudiants, leur situation reste inchangée. Ils pourront continuer à se rendre à l'université une journée par semaine. Concernant le télétravail, la règle ne change pas. Depuis la fin octobre, le protocole national en entreprise prévoit que pour les salariés qui peuvent effectuer l'ensemble de leurs tâches à distance, le temps de travail effectué en télétravail est porté à 100%. Depuis janvier, s'est ajoutée la possibilité de revenir un jour par semaine s'ils le souhaitent. Les salariés parents d'enfants de moins de 16 ans qui exercent un métier non télétravaillable peuvent demander à bénéficier du chômage partiel, dont les taux de prise en charge ont été prolongés jusqu'à la fin avril. Ces règles prévoient le maintien de l'indemnité à 84% du salaire net pour les salariés. Le reste à charge sera nul pour l'employeur et non de 15%. Les travailleurs non salariés comme les indépendants peuvent bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire pour garder leur enfant en se déclarant auprès de l'assurance maladie. Un seul parent à la fois ou détenteur de l'autorité parentale peut se voir délivrer un arrêt de travail. Le gouvernement compte également aider les familles modestes dont les enfants n'iront plus à la cantine ou ne pourront plus bénéficier de petits déjeuners gratuits. Pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, le chef de l'État a annoncé la fermeture des écoles dès vendredi soir, donc durant 3 semaines en avril, et l'élargissement du confinement hybride à tout le territoire. Nous avons recueilli les impressions du directeur de l'école primaire Monet-Roland à Villefranche, Régis Joubert, avec nous dans cette édition.
En fait, c'était urgent de prendre ce genre de décision. Il y avait grande urgence à arrêter l'hémorragie, d'un service public qui n'assure plus son service public. Accueillir les matins, les parents le matin et leur dire on ne peut pas garder votre enfant parce qu'il y a un cas positif dans la classe. J'estime qu'on ne pouvait plus faire notre travail sereinement, sérieusement, et c'est une bonne décision qui a été prise. Après, ça nous laisse 2 jours pour nous organiser pour la suite. Ça, c'est également sage, plutôt que cette décision a été prise en urgence un vendredi. Donc je dirais qu'on l'attendait tous et heureusement, elle est tombée. On espère qu'on sera de retour dans les temps, même si j'ai personnellement encore beaucoup de doutes sur cette reprise de fin avril, à titre personnel. Sinon, écoutez, concernant les annonces, c'était important que le président parle des enseignants, parce qu'il me semble quand même qu'on a été souvent mis,
à contribution,
et je dirais qu'on a tous, on s'est tous remonté les manches pour que notre service tourne. On n'a pas compté notre temps, notre énergie, et j'avoue que parfois on avait un peu beaucoup d'inquiétude par rapport à l'environnement. C'était difficile de garder le moral des troupes dans les temps, incertains que nous connaissons. Donc, sage décision. Surtout pour nous, la première zone, on est la moins impactée. Clairement, 3 jours avant les vacances de printemps, c'est raisonnable. C'est raisonnable pour éviter un décrochage souhaité avec raison par le ministère.
Reste à organiser cette semaine distancielle.
Alors, en fait, il va y avoir une organisation du travail donné aux enfants de différentes manières. C'est-à-dire, il va déjà y avoir du travail physiquement de donner aux élèves en cette fin de semaine. Je dirais pour qu'il y ait, parce que pour certains parents qui n'ont pas toujours accès au numérique ou à certaines techniques, on s'est rendu compte que le support papier était préférable. On s'est rendu compte également que pour un certain niveau de classe, les classes de cycle 2, le décrochage était plus fort quand il y avait du travail à distance. Pour les élèves de cycle 3, donc à partir du CM1, CM2, c'est plus facile de partager un travail par voie numérique ou des échanges ou même une visio. On s'est bien rendu compte que si ces nouveaux supports, on leur limite et on leur force, quoi. Il faut travailler entre, je dirais, peut-être qu'il y aura des remédiations avec des petits groupes de travail pour des élèves qui sont en plus grande difficulté, des points réguliers, mais on n'a pas encore mis en place les modalités précises à ce jour, à cette heure, quoi.
Gestion des cas Covid.
Ce matin, nous venons de fermer deux classes suite à un cas positif d'une élève. Donc, je dirais que ça complexifie le travail, de l'équipe, de la directrice ou du directeur en même temps. Et surtout, comme je vous disais, les parents se trouvent devant la porte avec leur enfant à gérer en fonction des contraintes professionnelles qu'ils n'ont pas pu organiser ou des contraintes familiales. Et le cas le plus difficile, c'est quand ce sont les grands frères ou grandes sœurs qui accompagnent. Et donc, on n'a pas de parents. Donc, on est obligé de prévenir les parents de venir récupérer leur enfant d'une manière physique à l'école. Donc, on ne peut les garder.
Des contraintes supplémentaires.
Et puis, j'allais dire, pour tout ce qui est pédagogique, pour le suivi régulier, et puis aussi par rapport à des actions ponctuelles. Par exemple, on venait de commencer la piscine avec les cycles 2, donc avec deux classes de CP-CE1, une première séance qui s'était bien passée la semaine dernière, malgré quelques appréhensions. Et là, dès demain, elle ne pourra bien sûr avoir lieu parce que les élèves ne seront pas présents. Donc ça nécessite, par voie de conséquence, un petit jeu de dominos et donc prévenir la piscine, les mettre nageurs, réorganiser l'écart. Voilà.
Du 17 mars au 11 mai, les établissements scolaires de la maternelle au lycée vont être fermés partout en France à partir de vendredi soir prochain et pendant au moins 3 semaines. La semaine prochaine, des cours en distance seront organisés là où c'est possible. Ensuite, toutes les zones seront en vacances pour 2 semaines, du 10 au 26 avril. Le 26 avril, les élèves de primaire et de maternelle retourneront à l'école, tandis que ceux du secteur seront en distanciel. Une semaine supplémentaire et ne retourneront en classe que le 3 mai, éventuellement avec des jauges adaptées. Les universités ne sont pas concernées par ce nouveau calendrier. Les étudiants qui le souhaitent pourront continuer pendant le mois qui vient à se rendre à l'université pour une journée de cours par semaine. En raison de ce nouveau calendrier scolaire, il n'y aura donc pas de zone A, B ou C durant ces vacances de printemps et les dates de congés scolaires prévues sont abandonnées. Retraités, associations et syndicats, un appel à une journée nationale de mobilisation ce 31 mars. Sur le plan social, l'augmentation des pensions, en particulier pour un meilleur pouvoir d'achat, fait partie des revendications principales, mais aussi l'amélioration de l'accès aux soins, les vaccins pour tous, la prise en charge de la perte d'autonomie par la sécurité sociale également. La CGT Retraités Villefranche-Beaujolais invitait au rassemblement en matinée pour un défilé rue nationale jusqu'à la place des Arts à Villefranche. Les propos recueillis de Michel Catelin, représentant responsable local CGT Retraités Villefranche-Beaujolais.
Bon, la revendication centrale, c'est dans le cadre d'une initiative nationale. La revendication centrale, c'est urgence retraite, augmentation de 100 euros tout de suite pour rattraper la perte de pouvoir d'achat qu'on a depuis 22 ans et qui se monte à 300 euros. Donc on a ce mot d'ordre central. Bien évidemment, ne sont pas évacués le restant des revendications des retraités et notamment le retour des revalorisations des retraites avec une indexation sur les salaires comme ça existait avant. Caractéristique que j'ai déclarée, c'est qu'on en est au quatrième président de la République, c'est-à-dire depuis 22 ans, tous les présidents de la République qui sont présentés avec leurs ministres, tout ce qu'on veut, tous se sont attaqués au système de retraite. La question est-ce que ça a servi notre pays ? Depuis, le nombre de chômeurs a été multiplié par 2, 3, 4, 5, selon les régions, même à Villefranche, on a doublé le nombre de chômeurs pendant toutes ces années. Est-ce que s'attaquer aux retraites, c'est bon pour le commerce, c'est bon pour les services, c'est bon pour l'industrie, c'est bon pour les familles, c'est bon pour la vie sociale, c'est bon pour les associations, les clubs, les amicales. Voilà la vraie question qu'il faut qu'on se pose. On ne peut plus continuer comme ça. Or, malheureusement, les dernières annonces de Macron et de son ministre Le Maire disent qu'ils veulent encore remettre sur la table la réforme des retraites. Ce n'est pas des réformes qu'ils nous font, c'est un massacre. Il y avait un film qui s'appelait « Massacre à la tronçonneuse », mais je crois qu'il est d'actualité lorsqu'on parle des retraites. Franchement, dans quel pays on vit au 21e siècle, la 5e puissance mondiale, pour trouver cette situation de retraités pauvres, 1 million de retraités pauvres dans notre pays. De nombreux retraités maintenant viennent dans les associations caritatives, il faut aller les voir. Donc voilà la situation, donc c'est effectivement intenable. Après, il y a toute la question des mesures de santé, notamment autour de la pandémie. Je veux dire, on avait beaucoup bougé autour de cette question des masques en disant « c'est pas fini ». On s'aperçoit que 6 mois après qu'on avait posé cette question, ça continue avec les masques qu'il faut acheter dans les familles où il y a des enfants, où il y a plein de choses. Voilà. Donc on a une situation, alors on peut rajouter la solidarité qu'on exprime vers tous les personnels de santé. Et au-delà de tous ceux qui sont contraints à rendre des services publics, c'est un véritable coup de chapeau qu'il leur faut. Malheureusement, on n'applaudit plus aux fenêtres comme avant, mais ils sont toujours là, dans l'ombre. Ils souffrent, ils en bavent au quotidien, dans leur travail, dans leur vie sociale et familiale. Donc voilà, chapeau pour eux.
La question des vaccins pour tous était à l'ordre des revendications également.
Alors la question de la vaccination, c'est absolument scandaleux. Le chantage qu'il y a pu y avoir, y compris des grandes trusts pharmaceutiques, sur cette question. Les vaccins, ça doit être libre, ça doit être international. Tout le monde doit pouvoir y avoir accès, quelle que soit la situation où on est, dans quel pays. C'est un vrai marchandage qu'on a assisté là. Tu me payes, je t'en donne un peu. Tu me payes mieux, je t'en donne un peu plus. Il y a des pays, parce qu'ils ont payé, ils en ont en masse. Et nous, dans notre pays, comme dans d'autres voisins autour, on est dans une situation de retard considérable. Retard considérable. Et donc là, il y a un rattrapage à faire, mais en urgence. Et puis alors après, il y a toute la question des personnels, comme je le disais. Et reviennent sur le débat, la grande question, qui va payer ? Qui va payer cette crise ? La sécurité sociale, c'est bien, mais la sécurité sociale, pour pouvoir payer, il faut que ça rentre. Or, pour que ça rentre avec 6 millions de chômeurs, ben, ça ne rentre pas. Donc on ne pourra pas assurer indéfiniment le remboursement des médicaments, des hospitaliers et ainsi de suite. Voilà. Et ça nous inquiète beaucoup parce que les gouvernements depuis plusieurs années ont toujours ça dans la tête, c'est moins de rentrées pour la sécurité sociale, alléger les entreprises et ainsi de suite. D'ailleurs, remarquons que sur les 100 milliards soi-disant consacrés au plan de relance, ben, on ne trouve rien. On ne trouve rien pour les retraités, et puis pour les salariés, et puis pour les chômeurs. On est dans la même situation.
Michel Catelin, je sais que vous êtes très proche effectivement des retraités de la localité. La question du confinement, du couvre-feu, comment vivent les retraités aujourd'hui sur cette crise pandémique ? Comment vivent-ils ? Alors, loin des enfants certains ?
On voit que les retraités qui sont engagés depuis longtemps dans l'action revendicative, pour eux, je ne veux pas dire qu'ils vivent mieux, mais ils ont une possibilité de s'en sortir, de voir des gens, enfin d'échanger,
du lien social,
alors que trop restent dans des situations isolées, seules. Moi, je connais une personne qui a 94 ans et qui est toute seule chez elle. Voilà, c'est des situations très compliquées. On peut aller les voir une fois de temps en temps, mais ça ne remplace pas le lien permanent qu'il peut y avoir dans une famille, dans un groupe collectif.
Un manque de personnel d'accompagnement à la personne qui se fait ressentir.
Là aussi, chacun sait qu'on est en manque d'effectifs considérables dans les services à la personne. Avec des situations de vie. D'ailleurs, quand ils vont chez les personnes âgées isolées comme ça, c'est inquiétant. Quoi. Je veux dire, ils ont peur, ils le font, ils se dévouent, alors qu'ils rentrent dans des appartements des fois où il y a peut-être le Covid, enfin il y a un certain nombre de choses. Bon, je tire un chapeau extraordinaire, mais on est en train de regarder là, tiens, les agents de la ville qui sont en train de faire l'entretien de la ville, là, de rendre la ville propre. C'est aussi un travail formidable, donc on peut qu'admirer tous ces gens-là et exiger pour eux une juste reconnaissance des efforts qu'ils font.
C'était Michel Catelin, responsable local CGT retraités, dans le cadre de la mobilisation du 31 mars, de l'augmentation du pouvoir d'achat des retraités.
Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.